L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Avec les gens de la mer comme signe de l'Église dans un engagement d'humanité. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie du témoignage de l'abbé Michael Epalsa, prêtre aumônier des pêcheurs. Cette première partie du témoignage de l'abbé Michael Epalsa est précédée du mot d'accueil de l'abbé Lionel Landard.
Merci beaucoup d'être avec nous ici cet après-midi dans cette église de Saint-Jean-de-Luz. Alors, je ne vais pas vous présenter l'abbé Michael Epalsa, parce qu'il fait partie tellement du décor ici qu'on ne le présente plus, on vit avec. Voilà. Donc Michael, merci d'être là pour cette conférence. Cette année, nous avons un cycle de conférences qui est un peu réduit. Le thème, c'est l'eau, toujours, l'eau des hommes, les hommes de l'eau. Voilà un homme de l'eau qui a rejoint d'autres hommes de l'eau. Et je pense que c'est cette expérience de pêcheur d'hommes qu'il est venu nous partager ce soir et nous donner son témoignage de prêtre auprès des gens qui vivent de la mer et des produits de la mer. Merci, Michael.
Yeshker, Lionel, pour cette invitation à partager ce témoignage de vie, une conférence. Le mot est peut-être trop fort, c'est un partage. Et merci à vous de prendre du temps au milieu de cet été chaleureux, prendre du temps pour... rentrer dans un monde qui est en marge. Hein. La mer est en marge de la terre et la mission de la mer est en marge aussi de l'Église souvent. Et quoique, moi je vois aujourd'hui, hier, enfin avant-hier, des enterrements, des préparations de mariage, de baptême, toujours dans le monde maritime ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que cette expérience de la mer qui m'a façonné m'aide à rentrer dans une certaine intimité pastorale. Et la première des choses, je crois que tu parlais de cette église Saint-Jean-Baptiste, figure-toi que c'est Monseigneur Bellevue, alors... Je ne sais pas, les anciens, vous l'avez peut-être connu, mais alors les très anciens. Hein. Monseigneur Bellevue, c'est un prêtre, le curé de Saint-Jean-de-Luz, qui avait eu une aura pastorale assez importante dans les années 20, 30, 40, 50. Et il avait un vicaire, plusieurs vicaires à l'époque, il avait trois ou quatre vicaires. Et plus des prêtres qui passaient, ça manquait pas. Et il reçoit un ordre de la présidente du président du conseil épiscopal de. Est-ce que vous entendez? Oui. Il faut faire autre chose, plus près du micro. Bon. Et de qu'il fallait un aumônier des marins. J'ai trouvé dans le livre, le livre d'Idiar Tegaray, ce passage-là, où il nous parle comme quoi, je ne sais pas si je peux le lire en entier, oui, je crois que ça vaut le coup. Il dit dans son bouquin d'Idiar Tegaray, Arnaud Idiar Tegaray, originaire du Pays Basque intérieur, d'Aax, une force de la nature, certains l'ont connu, ceux qui étaient à Saint-Thomas d'Aquin, peut-être. Et donc, lui restait aumônier des marins de 39 jusqu'à 65. Et un jour, Monseigneur Bellevue vint me confier, dit-il, son émoi, Monseigneur l'évêque, alerté par l'Assemblée des cardinaux à la suite des enquêtes du révérend père Lebret, montrant la situation lamentable des marins sur nos côtes, lui demandait de lui désigner un prêtre qui accepterait de s'occuper d'eux. Tout naturellement, il avait songé à moi, son troisième vicaire. Il portait sur lui, me confia-t-il, le poids du regret de n'avoir jamais pu approcher ces hommes et ce milieu et de les voir éloignés de l'Église et mis presque au banc de la société. C'était une véritable tâche missionnaire qu'il me proposait. J'avais toujours pensé aux missions depuis mes années de collège. Aller en brousse ou affronter un milieu complètement abandonné et séparé de la chrétienté, c'était à peu près équivalent. Et c'est ainsi que je me laissais persuader par l'appel angoissé de mon vieux curé. Profitant de mes bonnes dispositions, il voulut battre le fer tant qu'il était chaud et me convoqua quelques jours après chez lui en présence de Monseigneur Houbeau, qui était évêque de Bayonne. Celui-ci, avec son habileté ecclésiastique, me cacha la myrrhe en m'offrant de l'encens. Monsieur le curé lui avait beaucoup parlé de moi, avec mes aptitudes, mon caractère, etc. J'avais tout ce qu'il fallait pour réussir. Du reste, ajoute-t-il, pour parer à mon manque de préparation, on m'enverrait faire tous les stages qu'il faudrait. En somme, si je comprends bien, Monseigneur, lui dis-je, vous avez pensé à moi pour ce milieu et cette mission moins à cause de mes qualités que de mes défauts. C'est que, me retorqua en riant la visée Lorrain, le bon Dieu, Monsieur l'Abbé, se sert souvent autant de nos défauts que de nos qualités. C'est le début de cette grande aventure de l'apostolat de la mer avec ce dominicain qui a été un des instigateurs du Concile Vatican II, surtout de Gaudium et Spes, être présent dans le monde comme une semence et non une église à part du monde. Et le révérend père Lebré avait fait une enquête auprès des populations maritimes montrant l'abandon matériel, spirituel, psychologique, sociologique, etc., et proposant quelque chose de tout nouveau à l'époque, un développement de tout l'homme et de tous les hommes. C'est-à-dire que l'apostolat s'engageait à former des marins, former des femmes de marins, donner des cours aussi d'humanité et aider à s'organiser de façon à ce que ces pêcheurs puissent être eux-mêmes acteurs de leur histoire. Alors, moi j'arrive là-dedans, je suis ordonné, ça va faire 50 ans, en 1973 donc, et le surlendemain de l'ordination, j'embarque au Thon parce que j'étais déjà lié avec la mission de la mer. En 72, j'avais navigué un mois à l'Ekeitio sur un thonier. La mer m'était proche, familier. Avec mon frère, nous allions souvent pêcher depuis qu'on était gosses. Et donc, avec la mission de la mer... La mission de la mer, c'est cet organisme surtout de laïcs et aussi de religieux, de prêtres qui essaient de vivre l'évangile dans le milieu maritime, à bord des bateaux de pêche et aussi du commerce et de vivre l'accueil. Et donc, on nous proposait à nous prêtres d'embarquer pour connaître le milieu maritime. Déjà, je me souviens qu'en 73, il y avait déjà deux prêtres qui étaient du côté de Sable d'Olonne et un autre à Boulogne, embarqués comme matelots. Et donc, le surlendemain de mon ordination, j'embarque sur le Panchica pendant deux mois jusqu'à ce que les autorités locales ne voient pas ça d'un bon œil et me voilà vicaire à Biarritz, voilà, à Saint-Martin. Et je reviens donc en 1985, à la demande de Monseigneur Vincent. Et depuis, je suis là. On m'a pas fait d'autres propositions, je suis là. Alors, quand j'arrive, bien entendu, j'embarque sur les Scolaria. Alors, je parlerai durant ce partage de mon temps de mer et puis aussi de toutes les associations qu'on a mis en place pour en faveur de ce monde maritime, puis quelques événements si on a le temps, parce que bon, on peut pas tout dire, hein. Mais Déjà, bon, je ne vais pas vous lire le carnet en entier parce qu'il y a beaucoup de choses ici dedans. Et il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire non plus dans une église parce que c'est tout, tout n'est pas de la sainte oreille. Hein. Alors, donc, en septembre, donc, à 6h30 du matin, nous avions l'heure, c'est important, l'heure, pour embarquer. J'étais content de revoir à bord Philippe Mujica, matelot, qui avait 24 ans, et j'avais connu toute sa famille avant de partir pour Biarritz. Et je retrouve aussi le patron Diochette Berouette, sa femme Hélène, sont de vieux amis qui ont fait partie de l'équipe de l'Action catholique ouvrière maritime en 1972, quand j'étais dans un stage diaconal ici. Lui, il avait fait de la JOC avant, dans le temps. Diochette fait partie de la tribu Tchaquette, originaire de Sokoa. Le mécano du bord était Auguste Pacico, frère de Bacic, décédé tragiquement à Dakar. Bacic était un mécanicien qui a disparu aux Almadies devant Dakar, on ne l'a jamais retrouvé. Avec Mathilde, la veuve, nous avions passé une semaine ensemble à Dakar, sur les lieux où Bacic a tant vécu, où il a quitté la mer définitivement. Donc en montant sur l'Escualeria, bon, je pense à tous ces visages, et ça me fait chaud au cœur, la tête pleine de tout ce visage, l'esprit dispo pour commencer ma mission. Eh bien, je suis heureux de quitter la rade de Saint-Jean-de-Luz pour une marée de thon. Depuis 1973, je n'avais pas embarqué, depuis la saison sur le thonier Panchica. Le premier jour, on fait le Peita, c'est du petit anchois au large de la côte, et donc on aperçoit plusieurs petits moteurs en train de pêcher autour de nous, et nous avons fait trois échadas, trois coups de filet, et au troisième, il y en a eu pour tout le monde. Il y avait le Jamais 203, c'était aussi un thonier à l'époque, et un autre qui est venu faire le Peita à notre filet. Le Sainte-Thérèse, le Henri, ont fait le Peita en même temps que nous. Nous avons fait ensuite route vers Santonia, à 50 000. Là, nous avons capturé 46 gros rémiras du patudo, au Chiritoa. Tout ça, c'est des techniques de pêche. Bon, qui ne m'était pas du tout étranger, puisque je connaissais et j'aimais cette pêche au thon, qui est magnifique, à la canne, à l'appât vivant. À bord, discussion au sujet des taxes portuaires, au sujet de Dakar. Quatrième jour, mer calme, vent de sud-est, c'est pas bon, sud-est, vent d'est, c'est pas bon pour la pêche. Une mer peuplée d'une forêt d'oiseaux de toutes sortes. Il y a des brocois, des fous de basan, des dadins, des chirichara, martina, des biarros. Et on a pu apercevoir plusieurs choumayas. Les choumayas, c'est des groupes d'oiseaux qui tournent sur le lançon et qui mangent le lançon qui est mangé par le thon. Et quand on voit un choumaya, on se dit, il y a du thon. Des chardaras. Le chardara, c'est le thon qui saute. Il saute en groupe. Ou un chalto, c'est un thon qui saute tout seul. Tout ça, c'est autant de termes très précis. On n'a pas vu de leuna ni de balbaya, c'est des dénominations d'autres. Voilà. Et puis on tombe sur plusieurs trashka. Trashka, ce sont des bandes de thon. Au total, nous avons 720 poissons. Et je vois que l'équipage est très satisfait. On rentre le septième jour, le matin. Moi, je dors à bord avec Diochette et Jean-Philippe. À 6h30, commence le débarquement du poisson. Il y a une grosse animation autour de la criée. Et nous, on fait nos calculs. On le vend à 24,50 francs le thon blanc, 12 francs le patudo. Et jeudi, alors que là, c'était vendredi soir, le jeudi, le thon, le même thon était à 27 et 28 francs. Donc là, il a fallu accuser le coup, quoi. Voilà, ça c'est le premier embarquement, puis les bateaux sur lesquels je suis allé, c'était comme il y avait 7 métiers, j'essayais d'embarquer sur tous les métiers, parce que chaque métier est différent. La mer est la même, le poisson aussi, mais les métiers, c'est très différent, qu'on soit au filet, à l'hameçon ou autre. Je vois cet autre témoignage. C'est le 6e jour de mer. On sent la fatigue. Je suis sur un chalutier, là. Se lever 2 à 3 fois par nuit pour virer, trier, triper, glacer. On vire le filet au chalut à 1h du matin, puis à 7h. 6 jours dans les mêmes habits, sans se doucher. Dans la prière faite à bord et notée dans le cahier, je lis ceci. « Seigneur, tu es là, les pieds dans l'eau, sous l'habit du marin pêcheur. C'est toi qui nous donnes la force de travailler, d'espérer, de partager. C'est facile de dire que tes œuvres sont belles en admirant un beau soleil qui plonge ses rayons dans l'océan. Les œuvres de Dieu, je me sens appelé à les contempler dans ces rayons de fraternité, d'entraide, qui embellissent la condition de vie à bord. Le chemin du travail en mer, c'est celui du silence et de l'humilité. La mer forme les hommes. La mer aussi forme ma vie de prêtre. Vivre la mission à partir de la mer, à partir des gens de mer, c'est une sacrée mutation. 1er mai, fête des travailleurs. On l'a honoré en travaillant plus que d'habitude, de 6h du matin jusqu'à 2h du matin. Un pêcheur me dit, le 1er mai, on travaille. Et tu es comme nous. Au lieu de faire ta prière à terre tranquillement, toi aussi tu travailles avec nous. Pour découvrir le Dieu qui s'incarne en mer, il faut passer par ce Nazareth maritime. Moi, je crois que ça, c'est important, ça. Pour revenir à Jésus-Christ, on parle des 3 dernières années du Christ, mais tout ce qu'il a vécu dans son travail comme artisan, à l'atelier, ça reste dans le silence, quoi. Or, où est-ce qu'il a appris à le chemin de la justice, c'est l'importance du plus petit, l'importance du partage, travailler ensemble, tenir compte des blessés, etc. Il a appris ça chez lui, dans sa famille, dans son boulot, ces valeurs-là. Alors, pour le monde ouvrier, pas que le monde ouvrier, le monde du travail en général, Nazareth, c'est important. Nazareth, c'est ça. Être dans le monde pour découvrir celui qui nous précède. Parce que souvent, on m'a critiqué, mais qu'est-ce que tu fous en mer au lieu de dire ta messe, tout ça, à terre Mais justement, c'est une manière de célébrer la messe, de retrouver la présence de l'invisible dans la vie des gens, dans la vie des personnes. Et pour cela, vivre avec eux. Et donc, lever le filet, lever le calice, ça part de la même passion de cette rencontre avec le Dieu vivant. Voilà. J'étais embarqué sur un palangrier d'Andaï, au Merlu. Une autre histoire. Au petit matin, au moment où on allait jeter les lignes, alors les lignes, c'est des lignes d'hameçon avec de la sardine congelée au bout, c'est encore un autre métier. Appel à la radio. Un ligneur de Saint-Jean-de-Luz vient de surprendre le Pedro José, un filayeur d'Andaï, bloqué avec le filet à l'hélice, dans la zone réservée aux ligneurs. Donc il est pris en flagrant délit. En un rien de temps, il est encerclé par les ligneurs lusiens et les 20 ligneurs de Fontarabie qui viennent à la rescousse. La colère contenue des petits contre le gros explose avec sa charge de haine à coups de cailloux. On a des cailloux à bord pour poser les palangres, cailloux. Et tous les 15 hameçons, un caillou et une piedra bola et une boule pour tenir comme ça le palangre. Alors, Ils pètent les radars, les vitres, passerelles, tout est cassé. Voilà. Moi, je me sens très gêné parce que je connaissais les gars du Pedro José. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. C'est vrai qu'on pêchait pas non plus. Et les jours précédents, maintenant, on a compris pourquoi, puisqu'il était lui avant nous et il posait ses filets. Et donc, nous, quand on arrivait, il n'y avait plus de poissons. Alors, Fontarabie remorque le bateau à son port, brûle les filets au quai et mazoute le poisson qui est à bord. La presse aussi est là, on parle à gorge chaude. Moi, ça me fait mal. Alors, il y a un tas d'oppositions, de déchirements entre les filets pélagiques, les filets droits, les filets la bolinche. Il y a une telle complexité en mer, si on ne respecte pas les lois, que ça devient la guerre, quoi. Moi, je prends la décision de naviguer sur tous les métiers, d'écouter les plaintes des uns et des autres, les uns qui disent c'est la mort du métier, et il n'y en a que pour les pélagiques, et les autres qui disent, ces pélagiques qui disent ils sont jaloux, il faut évoluer, heureusement qu'on est là pour l'avenir du port, etc. Moi je souffre quand je vois la pêche du bolincheur qui fait des petits apports et. En un mois, j'avais calculé 8 millions de frais, 4,5 millions d'apports. Et des sommes folles ramassées par les autres. Alors je médite ce passage de Saint Paul aux Corinthiens. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour qu'on voie que cette extraordinaire puissance appartient à Dieu et ne provient pas de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais pas désespéré. Voilà. Alors ce trésor, c'est le trésor du dialogue. Se parler humainement, dignement, se respecter. Alors en ces jours de conflit, je pense aux discussions, aux morceaux de dialogue à bord. Au début de prise de conscience, ils sont comme des commencements d'un monde nouveau, où celui qui a raison n'est pas le plus puissant, celui qui met le plus d'argent à terre, mais d'un monde où chacun a sa place, où chacun parle et écoute l'autre. Je me sens étouffé au sens propre du mot parce que je me souviens que sur chaque métier, il y a des hommes qui se sacrifient pour leur famille. Quand en mer, on dit qu'il n'y a pas que l'argent, mais aussi des hommes, on se cogne contre la croix. Mais justement, Seigneur, n'est-il pas là ton trésor, ton vase d'argile? Oui, le dialogue, la concertation, c'est ce vase d'argile, ce trésor de l'Évangile vécu par les marins. Voilà. Et puis, là-dedans, il y a ce fameux blocus de la vie d'Assoie, 88. Deux blocus. L'Espagne rentre dans le marché commun le 1er janvier 1986. Rien n'est préparé. C'est copié sur l'Europe verte. On appelle ça l'Europe bleue. Et les pêcheurs, la pêche traditionnelle, les 350 bolincheurs thoniers de Bermeo, d'Ondarroa, les Keitio, Olio et de toute la corniche, ils pensent que les Français et l'Europe veulent leur mort. Alors, ils occupent la baie d'Assoie. C'est-à-dire, personne ne peut plus passer. En plus des motivations qu'ils avaient, et l'Europe a l'idée de mettre une bisectrice, une frontière entre l'Espagne et la France en pleine mer. Or, il se trouve qu'il y a juste un petit coin qui est du côté français, à droite de la bisectrice, qui s'appelle Escota, qui est à 40 000 nautiques d'ici, où venez pêcher depuis des siècles et les pêcheurs de Fontarabie de Merlu. Alors là aussi, il y a protestation. Que faire? Je propose à l'aumônier, que je connaissais, l'aumônier de Passages, on va aller les voir. On va aller voir les présidents des confradias. 350 bateaux, c'est énorme. Hein, il me dit, t'es fou, ne mets pas ta tête là-dedans, tu vas te faire casser. Je lui dis, je ne peux pas ne pas y aller. Je lui dis, pourquoi? Parce que j'ai été convoqué par le colonel de la marine, de Bayonne, qui m'a dit, nous avons 20 nageurs de combat qui vont, dans les jours qui viennent, plonger pour libérer la Bidassoie. L'État français ne supporte pas que la Bidassoie soit bloquée, c'est son territoire aussi. Et donc, il y a 20 nageurs de combat qui vont amarrer les ancres, à coup d'une quinzaine, et on a 2 bateaux de guerre qui vont envoyer tout ce monde là-dehors. Je dis, mais ça va pas la tête, non? Vous êtes fous? Vous voulez la guerre? Ça, c'est la guerre. Ben, vous allez tout casser, c'est des bateaux en bois. C'est... Il faut se parler. C'est pas un chantier de guerre, il s'agit de pêcheurs, d'une Europe bleue qu'il faut construire ensemble. Je lui dis, donnez-moi 48 heures. Ne bougez pas, donnez-moi 48 heures. Et donc je vais à voir l'institution majeure qui est le gouvernement basque, à Bitolia. J'en parle au ministre des Pêches. Je dis, voilà ce qui se passe. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tu viens avec moi. Tu viens avec moi voir les responsables les uns des autres et puis on va débloquer, on va voir. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 jours. On a rencontré tous les présidents des confradias à Saint-Jean, et puis ceux de Saint-Jean, d'Andaï, et on a fait une rencontre avec tous ces responsables. On était une 20aine autour de la table. La rencontre a eu lieu grâce à André Iturralde, je salue sa mémoire et celle de son épouse, ici, à Ojayalay. Alors vous imaginez l'ambiance qu'il y avait autour de la table. Ça gueulait. Et moi, j'étais le modérateur. Je traduisais. J'essayais. Et même un chalutier, un patron de chalutier d'Andaï qui dit « Ici, on est en France, il faut parler en français !» Bon, je lui ai dit « Écoute, Jacques, ici, on est à une table de négociation. Si toi, tu veux parler en français, tu parles en français. Celui qui parle en euskara, il parlera en euskara. Celui qui veut parler en espagnol, il parlera en espagnol. Je traduirai tout ce qui se dit, mais je ne traduirai pas ce qui se crie. Vous criez, je traduis pas. » Et donc, ça a duré 5 heures. Une longue discussion. On a remis ça le lendemain. Et on a fini par établir des accords, on appelle ça, qui sont devenus les accords de Saragosse, puisque les deux gouvernements se sont retrouvés en septembre, et ils ont entériné cet accord. Et voilà. Et donc, ceux de Fontarabie, ils ont pu venir pêcher à Eshkota. Ils peuvent toujours venir, d'ailleurs. Ceux d'ici peuvent faire le Peïta de l'autre côté, etc. Voilà, pour montrer que l'apostolat de la mer, la mission de la mer, elle n'a pas à s'esquiver quoi, devant les conflits, mais à essayer d'être présent tout en croyant qu'il y a une force de libération, de communion, d'entente dans les pêcheurs eux-mêmes et dans leur organisation si on prend le temps. Voilà, de dénouer le conflit et de reconstruire. Voilà, des moments forts. Un autre moment fort, je l'ai vécu sur un chalutier. On était en novembre, il faisait assez froid, sombre, il était 3 heures, 4 heures, Et il y avait un chalutier d'Andaï qui était bloqué au large avec le filet à l'hélice. Et un pêcheur de l'île-Dieu, le Brie, avait plongé, il n'était pas de ce bateau-là, il était de notre bateau, de l'Orca, d'un fileyeur. Il avait plongé pour libérer le filet. Il avait plongé, il avait libéré le filet, mais il était revenu à la surface et puis elle a disparu. Nous, on était à quelques 3 ou 4 milles de là, donc on est appelé. On essaie le soir de chercher partout, avec les lumières, essayer de deviner des sapartes sur l'eau. Enfin, on n'a rien trouvé. On a passé la nuit là à prier. À bord, j'avais toujours le chapelet. Passé une nuit là, et donc le gars il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour sauver, en sauvant le filet, quoi. Et j'ai fait une prière que j'ai envoyée à sa famille de l'île-Dieu, parce qu'on était liés par la mission de la mer, nous lie de port en port, quoi. Et au retour à terre, je vais à l'école de pêche. C'était le directeur, c'était Gabi Béraud. Je lui ai dit, Gabi, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il faut savoir plonger. Mais nous, on n'a pas d'argent pour... on a de l'argent pour la formation, mais pas pour la pension. Je dis, c'est pas un problème, la pension. Moi, je vais les loger à Socorro, chez moi, je vais faire la cuisine. Ils vont dormir, on va se débrouiller, tout ça. Bon. C'est comme ça qu'il y a 12 jeunes qui moussent, qui ont fait la formation. Et moi, j'ai fait la formation avec eux de plonger. Et là aussi, c'était un engagement. Bon, j'ai eu quelques problèmes parce que j'étais chef de palanquée, normalement j'avais 4 derrière que je devais surveiller, mais ces chameaux, ils avaient vu une langouste là dans la baie, alors ils se sont échappés voir les langoustes au lieu de suivre la palanquée. Bon, enfin, on a eu quand même notre diplôme, et ça m'a servi, parce que sur Escoaleria, nous aussi on a eu le filet à l'hélice quand on était à l'Anchois, et on était dans les brisants. Les vagues n'étaient pas loin, et donc la mer nous poussait à la côte, et il fallait absolument plonger. Personne ne voulait plonger dans ces conditions-là, et donc fort de cette formation, j'ai pu aller sous l'eau, voir ce qui se passait. Je suis revenu prendre le gros couteau à temps pour couper ce filet, libérer le bateau juste à temps avant qu'il soit pris dans les vagues, parce qu'une fois qu'on est dans les vagues, on disparaît tous là. Hein. Voilà, ça fait partie des réponses. Hein, alors, le temps passe très vite. Qu'est-ce que j'ai appris, moi, de la mer, de cette... qu'est-ce que m'ont appris les marins. Alors j'ai noté, j'ai pensé à ça ce matin, qu'est-ce que j'ai appris. D'abord la beauté de l'océan, sur l'eau et sous l'eau, voir une goutte d'eau de mer au microscope. Si vous avez la chance de voir une goutte d'eau de mer au microscope, faites-le, parce que vous voyez tout un écosystème, une vie très riche, de flore, de faune. C'est la base du plancton, la nourriture des poissons. La mer, c'est un énorme vivier à connaître et à protéger. Voilà la première des choses. Des rencontres inattendues. Une baleine qui faisait la sieste au milieu de la mer et qui se laisse caresser par le thonier Escoaleria. Des milliers de marsouins rassemblés à Rochebonne. Rochebonne, c'est un lieu de pêche au large de La Rochelle. Pour la saison de l'amour. Des milliers. Je ne sais pas comment ils faisaient pour se reconnaître, mais bon. C'est très beau. Des spectacles uniques, d'espèces de lançons poursuivis par des chirichiraks, des dadens, des oiseaux qui sont suivis par des tons, comme une chorégraphie, quoi. Sur la radio, j'ai raconté aussi la danse des belugas quand je jouais de la chiroula sur le Saint-Laurent. Peut-être il y en a qui l'ont écouté, ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? La dignité. Qu'il soit mousse, matelot ou patron, tout pêcheur est un seigneur en mer. En mer, il faut connaître les courants, comprendre le poisson, savoir pêcher, savoir naviguer, savoir vivre ensemble, c'est ça naviguer. La formation maritime, c'est une grande chance, mais c'est en naviguant qu'on devient marin. Et puis en mer, on ne triche pas. Il faut être vrai. On vit dans une noix de coco, un enclos, et tout se sait. L'importance de l'amitié, voilà un sacrement, l'amitié. Du travail ensemble, l'entraide et la valeur permanente. Quand on est malade, on se fait remplacer, on vous garde la godaille. Une fois qu'on entre dans un équipage, il y a un lien profond. C'est comme une deuxième famille. Et à bord, ça sent bon le large, le poisson frais et aussi cette force du collectif. Ça sent l'évangile du partage et du courage. Il y a aussi quelque chose qui ne se sait pas à terre. L'amour conjugal, familial, fort. Le marin tient le coup en mer car il sait qu'une épouse, des enfants l'attendent. À terre, on ne sait pas que le marin pense fort au sien. Il est difficile, un célibataire, de se ressourcer en mer avec les tentations de la drogue, de l'alcoolisme, la prostitution. C'est difficile aussi à un missionnaire de la mer, un apôtre de la mer comme moi. Le célibat, c'est quelque chose de difficile parce que les autres copains, ils rentrent à la maison, ils trouvent une famille. Toi, quand tu rentres, tu trouves une maison froide. Et notre cœur n'est pas un frigidaire, quoi. Bon, alors, comment vivre c'est là où l'amitié, où les liens sont importants. Et puis, le marin, il nous apprend l'universel. Un marin est naturellement ouvert à tous les continents. La mer sépare les continents, mais unit les gens, les peuples. Ils m'ont appris aussi la méfiance vis-à-vis de tout ce qui est à terre. Quand il rentre de mer, le marin est comme étranger sur la planète Terre. Beaucoup de frustration. L'armateur qui est frustré à cause des quotas de pêche qu'il n'a pas, par contre, il a les traites à payer. Les matelots frustrés car personne n'écoute ses aspirations et puis ils ne sont pas qu'une paire de bras, ils voudraient être acteurs de leur histoire. Et puis, il y a ces combats qu'on a vus pour avoir sa place. Le pêcheur aime la liberté, mais il sait qu'il faut des règles entre métiers et entre bateaux du même métier. Dieu, on n'en parle pas, mais il est là. Il y a un lien personnel. Au milieu de l'immensité de la mer, on se sent tout petit, surtout face à la tempête. Il y a une religion du marin. Fais du bien et Dieu t'aidera. Cette religion du marin, ses valeurs vécues. Un marin, il va pas faire les chepantous parce que si jamais il dit qu'il prie, qu'il a la confiance en Dieu, ça veut dire que c'est un trouillard qui n'est pas envoyé. Il faut pas trop le dire, ça. Bon, c'est comme ça, quoi. Hein. Et quand un marin décède, c'est tout un peuple qui rentre à l'église en solidarité. Ça, on le voit très fort chez nous. Le marin habite en mer et est habité ou façonné par la mer. Et pour le comprendre, il faut le rejoindre sur son terrain et pas le juger d'après un regard de terrien. Alors forcément, tout ça, ça a des conséquences sur la pastorale. Quand je me réunissais avec les prêtres de tout le littoral, de Guétaria, de Fontarabie, de Berméo, on se faisait des réunions. Et ils me disaient, nous, on ne sait pas comment faire avec les pêcheurs, ils ne viennent pas à l'église, on ne sait pas comment les joindre, on voudrait leur montrer l'évangile, mais comment faire? Et je leur dis, mais commencez par les rencontrer, parler avec eux, avant de vouloir leur donner votre soupe. Regardez quelle est leur soupe à eux, comment ils vivent. Et puis, petit à petit, ça a marché. Et il y a eu des réunions qui se faisaient, on rassemblait les pêcheurs, les jeunes pêcheurs, les femmes de pêcheurs, à mon tricot. Et puis un jour, j'étais à l'Anchois, en Daï, Et la mission de la mer européenne me demande de monter à Anvers, en Belgique, en Flandre, pour s'il y a des Flamands parmi nous. Parce qu'il y avait 15 pays qui se réunissaient pour la mission de la mer, mais c'était tous pour l'accueil des marins des commerces. Et il me dit, toi, tu es en mer, et il faudrait que tu inaugures un peu une mission de la mer de la pêche pour l'Europe. Mais je lui dis, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir? Oui, oui, il y en aura d'autres. En fait, je me trouve tout seul de ce monde de la pêche. Il y avait de la Yougoslavie, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on parlait en espagnol, en français, en anglais, comme on pouvait. Et puis, il y avait le représentant de Rome, Monseigneur Costantino Stafernati, et qui vient avec le sujet. Le sujet, c'était comment transmettre la culture de la foi aux gens de mer. Comment transmettre la culture de la foi aux gens de mer. Chacun y va de son couplet. Arrive mon tour. Et je leur ai dit, pour moi, cette question, elle n'est pas du tout dans ce que je vis. Moi, je ne vais pas à bord pour transmettre la culture de la foi ni pour faire remplir les églises. Quand je monte à bord, c'est pour les connaître. Et je vais vous dire qu'ils ont des trésors. Les pêcheurs ont des trésors dans leur vie. Ils vivent déjà l'Évangile. Mais non, c'est pas possible, me dit Costantino. Ils n'ont rien. Niente. Ils n'ont rien, les pêcheurs, ils n'ont pas de culture. C'est des rebuts de la société. Je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'entends là? Et vous? Vous parlez au nom de Pierre, d'André, de Jacques, de Jean, des apôtres qui étaient pêcheurs. C'était pas le point de vue de Jésus. Jésus n'est pas venu leur montrer la culture là. Il est venu vivre avec eux. Il leur dit, même les envoyer au large. Venez, allez au large. Et puis il leur a transmis sa parole, mais une parole qui était inscrite dans leur vie. Et puis il les envoie. Je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Mais d'abord, il vit avec eux. Il embarque avec eux. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de les rejoindre et de ne pas nous prendre pour des maîtres et eux des élèves, mais apprendre l'évangile maritime avec eux. Oh, là, ça a jeté un froid terrible. Et le lendemain, comme quoi l'Esprit Saint passe par des endroits bien bizarres, le lendemain matin, j'étais au Pissotière, excusez-moi, on est dans l'église, mais enfin, je ne peux pas dire autrement. Et à côté de moi, Monseigneur Costantino Stafernati. Et alors, il me dit, ah, Michaelo, j'ai pensé à toi toute la nuit, mais c'est toi qui as raison. Moi, je suis au Vatican, je ne sors pas du Vatican, je ne vais jamais dans les ports, je ne vais rencontrer personne, et tu as raison. Bon, et on a donc culbuté ce séminaire. Non, comme quoi, le fait de naviguer, et l'année après, on s'est retrouvés à Barcelone, et Constantino, qui est devenu un ami très cher, était venu avec Umberto, qui était un prêtre qui travaillait dans une coopérative maritime, et deux femmes de pêcheurs. Voilà.
Avec les gens de la mer comme signe de l'Église dans un engagement d'humanité, vous venez de suivre la première partie du témoignage de l'abbé Michele Palza, prêtre aumônier des pêcheurs. La semaine prochaine, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie du témoignage de l'abbé Michele Palza. L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.